oublier le coronavirus et le confinement, quoi de mieux que de s'évader sur une petite île peuplée de drôles de personnages, parmi lesquels des koalas, des lapins, des ours et même des poulpes. Les visiteurs du jeu Animal Crossing New Horizons ont de fait connu un succès énorme. Le jeu de Nintendo a en effet réalisé le meilleur démarrage au Japon d'un jeu sur la console Switch. Mais il n'est pas le seul. Final Fantasy VII Remake s'est aussi écoulé à plus de 3,5 millions d'exemplaires en 3 jours, alors que le jeu Resident Evil 3 a aussi emballé les consommateurs. Autre sortie remarquée, Doom. Jeu idéal pour rompre le confinement en passant ses nerfs sur des monstres démoniaques. Un peu violent, me direz-vous, quand on vit confiné à la maison. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va s'interroger sur le rapport entre les jeux vidéo et la violence. Fait les sous-titres de cette sympathique chanson de Marjolaine Carlin avec les élèves de primaire de l'école de Choux, un village non loin d'Orléans. Il n'y a plus d'écran, on est tous fichus, plus de tablettes, de Wii, de PS, plus d'ordi, on est accro, on est à cran. À cran, les enfants sans écran. On pourrait dire de même des adultes d'ailleurs qui auraient été bien à cran si les écrans n'étaient pas venus combler le confinement. Mais trop d'écrans, trop de jeux vidéo dans une même journée, ce n'est pas très sain pour l'équilibre. Difficile toutefois de leur dire d'aller faire un tour dehors quand on n'a pas de jardin. Idem pour le sport, on a vite fait le tour des pompes, de la corde à sauter et du marathon sur le balcon. Les jeux vidéo ont vite pris une place démesurée dans la vie des confinés, petits et grands. Des jeux mignons, des jeux de stratégie ou de simulation, mais aussi des jeux de tir où le principe est de tuer l'adversaire. Il y a quelques mois, pour la story, j'avais reçu l'auteur d'un polar qui écrivait sur ce thème. Et je n'avais encore pas eu l'occasion d'exploiter cette interview. Il s'appelle Tom T. Ryan. Next Level est une réflexion sur la violence dans le jeu vidéo et ses effets dans le monde réel. Tom T. a passé son enfance entre Dreux et Cergy et vit aujourd'hui en région parisienne. Pensionnaire des centres de formation du PSG et de Caen dans sa jeunesse, il est devenu médiateur à Champigny-sur-Marne. Next Level, c'est un polar au style direct et nerveux, c'est son troisième roman. Je lui avais d'abord demandé ce qui l'avait poussé à écrire un polar autour du jeu vidéo.
Déjà, ce qui m'intéressait, c'était de parler de l'addiction aux écrans, l'obsession de l'image, la création de personnages. En fait, c'était plus un support pour parler de naviguer entre la fiction et la réalité. En fait, mon personnage est un fan de jeux vidéo. Il joue à un jeu de réalité virtuelle qui s'appelle Next Level. Et en fait, ce jeu consiste à tuer le plus grand nombre de personnes dans les grandes capitales mondiales en un temps réduit. Et justement, il y a la deuxième version du livre qui est éditée. Ce personnage, dans ce nouveau jeu, il doit tuer le plus de personnes possible dans les grandes capitales européennes, dont Londres, Rome, etc. Et donc, entre-temps, il y a sa mère qui est malade et qui doit se faire soigner. Et pour se soigner convenablement, il doit quitter son village pour aller vivre à Paris. Donc, il va la suivre. À partir de là, je vais mélanger la fiction et la réalité entre les villes où il doit combattre dans son jeu vidéo et Paris où il va être amené à vivre.
Next Level, c'est l'histoire de Martial, effectivement un jeune un peu paumé, sans père, une mère jeune, pas vraiment attentive à son enfant. On se dit, bah oui, ça c'est la banlieue, c'est stéréotypé, mais en fait pas du tout.
Non, je trouve pas que c'est stéréotypé, déjà je parle de Paris.
Donc, il vient de Brive, le gamin.
Il vit à côté de Brive dans un village, et donc il fait grand voyage pour Paris, pour la capitale, qu'il ne connaît qu'à travers ses écrans. Et il se rend compte avec le temps que la réalité est beaucoup plus complexe et tout ce qu'il a pu apprendre via Internet, tous ces codes volent en éclair en fait, un petit peu. Donc c'est à Paris, mais ça pourrait aussi être très bien en banlieue. C'est une jeunesse métissée, populaire. Et donc voilà, j'ai voulu faire cohabiter ces deux mondes montrer que nos personnages sont pas si différents qu'on veut bien le dire, et que voilà quoi, que c'est les mêmes problèmes liés à l'adolescence qui les travaillent.
Comment est-ce que vous avez imaginé ce jeu Shoot dans la ville?
En fait, après, je m'inspire un petit peu des jeux vidéo, j'ai joué aux jeux vidéo, donc je sais un peu comment ils fonctionnent, quels sont leurs contenus. Surtout, ce qui m'intéressait, c'était de parler des grandes villes européennes et justement d'amener Paris dans ce jeu, parce qu'à un moment, il va devoir aller à Paris déménager. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était faire découvrir les capitales européennes et faire découvrir Paris, tout en mélangeant la fiction du jeu et la réalité de sa vie.
C'est un jeu cruel et violent, hein, dites-vous, ultra réaliste, qui se passe dans les décors du jeu, à Paris. Hein, on reconnaît certains passages dans le jeu qu'on va reconnaître dans la réalité. Les personnages aussi qu'on doit éliminer, certains sont très connus. On parle d'une première ministre britannique, par exemple. Mais un jeu de ce type, avec un tel degré de violence et de réalisme, ça n'existe pas vraiment?
Oh, bien sûr que ça existe. J'ai envie de dire que c'est gentil encore mon jeu par rapport aux différents jeux qui existent. Et puis après, moi, j'ai envie de dire que j'ai utilisé ce jeu de vidéo pour parler de la violence. Et je pense que quand on voit la vie tous les jours, quand on voit les derniers événements, j'ai pas l'impression que la fiction est plus dure que le réel. Même si la fiction est une partie du réel.
La plupart des joueurs qui s'adonnent à leur passion, y compris pour des jeux matures comme GTA, Grand Theft Auto, disent qu'ils ont cette capacité à discerner le vrai du faux. C'est pas pour autant qu'ils vont être violents dans la vie de tous les jours.
Je suis tout à fait d'accord. On peut pas dire les grands criminels, c'est pas les jeux vidéo qui leur ont fait passer à l'acte. En fait, c'est plus ils utilisent les jeux vidéo surtout pour assouvir ses pulsions. Ça aurait pu très bien être la religion, comme ça aurait pu très bien être la politique. Le but, c'est pas de montrer du doigt les jeux vidéo et dire que c'est ça qui entraîne des passages à l'acte. Pas du tout. C'est juste, il y a déjà des pathologies et les jeux vidéo vont accentuer ces pathologies.
Ouais, il s'en sert un peu comme exutoire et échappatoire aussi,
exactement,
pour échapper à sa condition et à son mal-être, c'est certain. Vous, vous avez été médiateur en banlieue parisienne. Ce rapport entre les jeunes et les jeux vidéo, vous l'avez vécu?
Moi, j'ai surtout vu le changement par rapport à, comme je disais, c'est moi, ce qui m'intéressait, c'est l'addiction à l'écran, le contenu. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui ont accès à ces techniques modernes trop rapidement. Ils n'ont pas le temps de se construire, ils n'ont pas le temps de respecter les étapes nécessaires à leur développement, et ils ont des contenus, des informations qui déforment la réalité. Voilà, c'est surtout ça qui m'étonne. Après, moi qui ai travaillé dans la banlieue, on ne peut pas dire que les problèmes de la banlieue, c'est les écrans. Il y avait des problèmes bien avant. Ce n'est pas ça qui fait les jeunes d'aujourd'hui, et précisément les jeunes de banlieue. Après, c'est sûr que ça peut être un accélérateur, mais c'est un accélérateur comme tant d'autres choses.
Ce qui est intéressant, effectivement, dans ce que vous dites, c'est que les jeux considérés comme violents sont généralement déconseillés aux moins de 18 ans. Et là, le souci, sont lorsque c'est les gamins de 8, 12, 13 ans qui jouent.
Oui, moi, c'est ça le problème. Je trouve qu'à 18 ans, 20 ans, je ne dis pas que c'est bien, mais à 18 ans, 20 ans, on a peut-être respecté certaines étapes de développement qui font qu'on peut avoir du recul sur des jeux vidéo. Mais quand on arrive à un âge où on vient à peine d'apprendre à lire ou à écrire, je trouve ça destructeur, tout simplement. Et c'est aussi l'addiction, c'est des contenus très addictifs. Et pour que les contenus soient addictifs, il faut respecter certaines règles qui ne sont pas spécialement faites pour l'épanouissement de gamins.
Every time you're away from that console, are you making a calculation about how much money you're not making? How much money are you losing sitting here with me right now?
I mean, it's not like an absorbent amount, but it's enough to be like, dude,
it's
what are you doing?
Tens of thousands of dollars.
Yeah, definitely. That's a perfect assessment.
Dans cette vidéo de CNN, un journaliste interview Tyler Ninja Blevins. En 2018, il aurait gagné plus de $500,000 par mois en jouant à Fortnite Battle Royale. Sa chaîne Twitch compte plus de 10 millions d'abonnés. Tom T. Ryan, dans Next Level, vous mettez aussi en lumière la surmédiatisation de certains joueurs vedettes, de l'argent qui très vite va les entourer. Mais vous évoquez assez peu finalement le fabricant du jeu vidéo qui est d'une certaine façon la pierre angulaire de votre roman.
Bien sûr, la quête effrénée du succès, l'obsession de l'image, du sensationnel. En fait, c'est comme faire un montage de la vie. C'est comme si aujourd'hui, on voit des images de footballeurs, de stars, et on a juste des images. Et on ne voit pas les étapes à respecter pour arriver à ce niveau-là. On le sait quand on a d'expérience, quand on prend de l'âge, mais on ne le sait pas quand on est plus jeune. Et surtout, comme il y a beaucoup d'informations, on est à la recherche du buzz. Pour entraîner le buzz, il faut avoir un comportement particulier qui peut amener à des déviances, on va dire.
Tom T, vous avez des enfants?
J'ai 3 enfants.
Vous les laissez jouer?
Très rarement. Quand je vois l'état dans lequel ils sont, quand ils arrêtent de jouer, je me dis que vaut mieux pas que je les laisse jouer.
Ils sont énervés?
Très énervés. Ils ont des comportements étranges, on va dire. Comme, des fois, j'ai l'impression que c'est comme des drogués en manque.
Et ils jouent à quoi?
Jeux de société, ils font des dessins. Ils jouaient sur des jeux vidéo qui sont sur la tablette, mais j'ai arrêté assez rapidement. Pourtant, c'est pas des jeux violents, des jeux de stratégie, mais le fait d'arrêter, je pense que c'est le fait, c'est plus la position qu'on a quand on joue à ces jeux, d'avoir les yeux rivés sur l'écran et être comme coupé du monde. En fait, c'est pas vraiment de contenu. Quand je vois la réaction de mes enfants, c'est pas de contenu. C'est juste la pause, le comportement de mes enfants face à ça.
Merci Tom Terayan, auteur de Next Level, roman édité par Au Diable Vauvert. J'ai repensé depuis aux propos de Tom T, père de famille, et de sa position face aux jeux vidéo. J'ai repensé aussi à mon état d'excitation après une session de jeu, mon état d'énervement, surtout lors des jeux de course automobile. De la nervosité à la violence, il y a un pas. Il y en a un autre de passer de la violence virtuelle à la violence réelle.
L'actualité ce matin est toujours marquée par la tuerie qui s'est déroulée hier après-midi dans un lycée d'Erfurt en Allemagne. Un lycéen de 19 ans a abattu 13 professeurs, 2 jeunes et un policier avant de se suicider.
J'y repensais aussi à la tuerie d'Erfurt en Allemagne. C'était en 2002, relaté par la RTS, l'autorité fédérale de surveillance des publications destinées à la jeunesse avait dénoncé 2 jeux vidéo sans se poser la question de la détention par ce lycéen amateur de tir sportif d'un pistolet Glock et d'un fusil à pompe. D'autres tueries ont malheureusement eu lieu aux États-Unis, à El Paso ou Dayton l'an dernier, faisant de nombreuses victimes. Il y a eu pas moins de 41 fusillades de masse aux États-Unis en 2019. À qui la faute ? Pour certains élus républicains, Donald Trump en tête, les responsables sont tout trouvés, Internet et les jeux vidéo, plutôt que la vente libre d'armes.
What's changed in this country? We've always had guns.
Nous avons toujours eu des armes, toujours eu le mal. Mais je vois une industrie du jeu vidéo qui apprend aux jeunes à tuer. Voilà ce que déclarait sur Fox News en août 2019 Dan Patrick après le massacre d'El Paso. Il est vice-gouverneur du Texas et il réagissait à la 4e tuerie de masse dans son état depuis qu'il est en poste. Beaucoup d'étudiants ont perdu toute empathie pour les victimes à force de jouer à des jeux vidéo ou de regarder des films violents. Si, comme moi, vous êtes amateur de jeux vidéo, la diatribe de Dan Patrick, que ne renieraient pas les marchands d'armes, pourrait bien vous laisser sans voix. Quand on anime un podcast, ce n'est pas une bonne idée. Alors, pour comprendre si le jeu vidéo est responsable de la violence ou s'il est simplement le reflet d'une société où la violence est de plus en plus médiatisée, j'ai voulu avoir un avis impartial sur la question. J'ai donc appelé Vanessa Lalo au téléphone. Elle est psychologue clinicienne spécialisée dans les jeux vidéo, les pratiques numériques et leur impact. Bonjour Vanessa Lalo.
Bonjour.
Alors ma première question est simple en apparence. Est-ce qu'on peut lier violence dans le jeu vidéo et violence dans la société ?
On ne peut pas parler de lien de causalité, en tout cas, entre les jeux vidéo violents et le passage à l'acte. Ça, c'est un point qui est quand même très important à rappeler. Par contre, on peut observer que les jeux vidéo sont un reflet de notre société. Donc, les jeux vidéo violents qui sont achetés et joués correspondent à une certaine violence de notre société.
Alors, il y a plusieurs études qui ont été publiées sur ce phénomène. Une étude récente, notamment de l'université Oxford, qui a été réalisée auprès d'adolescents britanniques. Alors, effectivement, selon cette étude, il n'y a pas de lien entre la violence dans le jeu vidéo et la violence dans la société. Mais cette étude est loin d'avoir clos le débat, notamment face à des études américaines qui concluent que plus on joue, plus on s'isole et moins on fait la différence entre le jeu et la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites avec des biais méthodologiques et qu'il faut toujours faire attention quand même aux conclusions qu'on peut tirer des études. C'est toujours important de lire aussi la méthodologie des études et pas juste leurs conclusions ou leurs synthèses, parce qu'on apprend aussi un certain nombre d'éléments. Les jeux vidéo sont pas tous les mêmes, la violence n'est pas toujours la même, les mécaniques de jeu sont toujours très différentes, et comment les groupes témoins et les groupes tests ont été mis en place pour pouvoir mettre en place des comparaisons. Ça, c'est un point qui est quand même très important et qui nous permet souvent d'avoir plus d'informations que les résultats de ces mêmes études. Ça, c'est un point quand même méthodologique qui est assez important à aller creuser.
Et face au risque d'isolement ?
Alors, l'isolement, non. Alors, on s'isole physiquement, effectivement, par rapport aux normes sociales, en fait, qui sont établies de ce qu'est un contact social, effectivement, les personnes sont isolées. Maintenant, quand on joue à des jeux vidéo, on est extrêmement en lien social. On joue avec des personnes en ligne, parce que la plupart des jeux aujourd'hui se jouent quand même de manière connectée et en ligne. On échange par des supports vocaux ou écrits, on échange à travers des forums, on fait des vidéos, on partage ses expériences de jeu avec plein d'autres utilisateurs ou joueurs. Donc finalement, le contact social, il est très présent. Donc tout dépend comment on mesure cette notion d'isolement et de contact social. En tout cas, l'ancrage dans le réel, il reste toujours le même. les personnes restent quand même ancrées dans la même réalité que nous tous. Et on pourrait se poser la question, là, pendant le confinement, avec la dématérialisation du travail, est-ce qu'on était tous isolés ou est-ce qu'on était tous en contact les uns avec les autres? C'est une norme, en fait, hein, je pense, qui doit évoluer aussi et peut-être arrêter de confronter des réalités qui sont pas forcément toujours si différentes, mais qui n'ont pas simplement les mêmes modalités.
Alors, effectivement, on n'a jamais pu prouver de lien entre le jeu vidéo et le fait d'être violent dans la vie. À l'inverse, ce que vous expliquez, c'est que des gens avec des pulsions agressives sont plutôt attirés par des jeux vidéo violents.
Oui, plus on a des pulsions agressives, des pulsions sexuelles, des pulsions qui ont du mal à être contenues, plus on va chercher finalement à les se canaliser ou se défouler à travers différentes solutions donc qui peuvent être dans le sport, dans le réel. Hein. Il y a plein de manières d'exprimer ces pulsions, de se défouler, ou les jeux vidéo. Les jeux vidéo canalisent énormément en fait hein, ces formes d'agressivité, de violence, de pulsions, etc. Mais c'est pas parce qu'on est forcément violent ou qu'on a une appétence pour la violence qu'on va jouer à des jeux violents non plus. Hein, la mécanique de jeu, en fait, si on remplace les armes et les balles par des fleurs et des bâtons de bois, en fait, la mécanique de jeu reste la même. La violence, c'est juste une surcouche graphique. Et on a tendance à oublier, en fait, ça. C'est les mécaniques de jeu qu'il faut analyser, pas forcément le contenu manifeste, en fait.
C'est-à-dire ?
Comme je viens de le dire, si on jouait avec un bâton à la place d'une arme en première personne et que ça lançait des pétales de rose au lieu de lancer des balles, la mécanique de jeu ne serait plus du tout violente. Il suffit de voir un jeu comme Splatoon, qui est un FPS, donc un first-person shooter, donc un jeu à la première personne. On lance des balles de peinture. Et donc, on peut s'amuser à recréer tout un tas de décors colorés avec des peintures, s'amuser à faire des choses très artistiques. Et on n'est pas du tout dans une notion de violence, alors qu'on est en train de tirer, mais avec de la peinture. Et là, d'un coup, on ne voit plus du tout la violence.
Ouais, c'est pas du tout perçu comme violent. Pourquoi, si la mécanique est la même?
Parce qu'on met pas en scène des actes guerriers, parce que derrière, il n'y a pas de symbolique guerrière, qu'il n'y a pas une histoire qui vient nous expliquer qu'il faut aller tuer des méchants. On n'est pas dans une notion de tuer, on n'est pas dans une notion de vengeance, on n'est pas dans ces notions qui sont considérées comme négatives. Donc, c'est surtout ça, en fait. Mais en termes de mécanique de jeu, par contre, on est exactement dans les mêmes idées. C'est du déplacement dans l'espace très rapide, c'est cibler, tirer sur un endroit précis, donc c'est de la psychomotricité fine. Donc, en réalité, voilà, la mécanique de jeu, qu'on soit dans un jeu violent ou dans un jeu où on tire des pétales ou des pots de peinture, va être exactement la même. Et un joueur de jeux vidéo très aguerri à des jeux entre guillemets violents ne ressent pas cette violence. Il a l'impression de se déplacer dans l'espace le plus rapidement possible, de jouer en équipe, en collaboration pour essayer de trouver à quel endroit sont cachées les personnes. Et on est plus sur un jeu de rapidité, de collaboration, de dextérité, de psychomotricité, que sur un jeu qui va mettre en scène de la violence.
Second, we must stop the glorification of violence in our society. This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace.
Donald Trump, hein, qu'on ne présente plus, s'était exprimé l'an dernier après un énième massacre dans une école, c'était dans l'Ohio, par un suprémaciste blanc. Nous devons arrêter la glorification de la violence dans notre société. Cela inclut les jeux vidéo horribles et macabres qui sont maintenant monnaie courante. En matière de violence, les jeux vidéo font un coupable tout trouvé?
Le jeu vidéo, ça reste un média qui, même s'il a beaucoup de décennies derrière lui, est toujours suffisamment méconnu et pas bien intégré dans la société pour que ce soit effectivement un coupable idéal. Mais comme on a pu voir à l'époque de Montesquieu, on a voulu interdire le livre, on a voulu interdire les romans noirs, on a voulu interdire le rock, les jeux de rôle, les mangas. Enfin, à chaque époque, on a une sorte de bouc émissaire. Temps de comprendre les nouvelles mécaniques de la culture populaire. Et puis, ça commence à être des médias de jeunes, même si la moyenne des joueurs est à 34 ans aujourd'hui en France, on reste quand même très dans le cliché. Le joueur est un gamin, ado. Donc, on a tendance à faire porter aux jeunes générations le fait d'être souvent moins cultivés, moins ancrés dans notre société, on va dire. Et puis, au fur et à mesure, ces gens deviennent aussi des adultes et des générations plus âgées. Et puis, voilà, une nouvelle génération émerge avec des nouvelles modalités. À un moment, je pense qu'on comprendra en fait l'intérêt aussi du jeu vidéo, pas forcément du jeu violent, parce qu'on a le droit aussi chacun d'avoir nos appétences qui sont différentes. On n'est pas tous obligés de jouer à des jeux violents ou d'avoir envie de jouer à des jeux violents. Mais le jeu vidéo reste encore quand même un média très critiqué.
À sa naissance, le rap se conjugue avec violence. Des textes de révolte scandés sur une rythmique basique. De Los Angeles à New York, dans les quartiers noirs, retentissent ces cris de colère, notamment contre les brutalités policières.
Ce que vous disiez, c'est que le jeu vidéo est aussi le reflet de la violence dans la société, à l'image d'ailleurs d'autres produits culturels comme le cinéma ou le rap.
Oui, tout à fait. Ça reste un reflet de ce qui se passe. Alors, les jeux vidéo violents sont en majorité produits aux États-Unis. Pour revenir sur votre question liée à Donald Trump, on voit bien tout le lobby de la NRA, donc du lobby des armes. Bon, ça reste un produit qui est en vente libre chez eux, qui fait partie de leur constitution. C'est pas anodin non plus qu'il y ait autant de tueries de masse aux États-Unis. C'est pas lié aux jeux vidéo. Alors après, c'est sûr que les personnes qui décompensent d'un point de vue psychiatrique sont souvent dans une tranche d'âge entre 18 et 25 ans et que ça correspond à la majorité des joueurs de jeux vidéo violents. Cette tranche d'âge. Donc, c'est sûr que c'est facile en fait, de faire une corrélation en disant bah, ce joueur, cette personne qui a une pulsion sanguinaire en fait, est passée à l'acte à cause des jeux vidéo parce qu'elle était joueuse de jeux vidéo, sauf que peut-être qu'elle buvait aussi du café et on ne va pas aller attaquer l'industrie du café, ou peut-être qu'elle avait lu des livres et on ne va pas attaquer l'industrie du livre. Donc, ce serait bien aussi de faire de la prévention en termes de santé mentale, parce que toutes les personnes qui font ces passages à l'acte-là ont des troubles mentaux assez graves. À chaque fois, c'est des troubles psychiatriques qui sont de l'ordre souvent de la schizophrénie paranoïaque. Pourquoi ces personnes n'ont pas été identifiées ? Pourquoi on ne fait pas de prévention, ne serait-ce qu'en France, la santé mentale, elle est vraiment à zéro en termes de prévention. L'accompagnement et la prise en charge est quand même très faible. Aux États-Unis, il n'y a aucune prévention du tout. Donc, si en plus on ajoute le fait que les armes sont en vente libre, effectivement, ça va rajouter des possibilités qu'il y ait plus de dérapages. Il y en a beaucoup moins, en tout cas, ailleurs dans le reste du monde. Donc, ça doit nous interroger bien plus que le média en lui-même.
On comprend bien qu'on est face à un problème de société, finalement, et notamment de traitement des personnes qui ont un problème de santé mentale, comme vous le dites. Mm-hmm. Lors du confinement, la pratique du jeu vidéo s'est développée encore plus, idem d'ailleurs pour les écrans, si on veut aller plus loin. Quel impact, justement, le confinement peut avoir sur nos comportements et le comportement notamment de ces personnes dont la santé est plus fragile?
Alors, le jeu vidéo a été un très bon refuge pour les personnes qui se sentaient en difficulté pendant le confinement. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a d'ailleurs préconisé qu'on joue aux jeux vidéo pendant cette période de confinement parce que ça permet d'avoir un refuge, de s'évader d'un point de vue imaginaire, de vivre des aventures différentes, de pouvoir aussi se défouler là où on ne pouvait pas forcément voir les personnes autour de nous ou aller faire le sport qu'on souhaitait dehors. Et ça permettait aussi de pousser les personnes à rester confinées. Donc finalement, ça a arrangé tout le monde d'aller promouvoir le média jeux vidéo pendant ce confinement, alors que quelques mois avant, la même OMS disait « attention, addiction aux jeux vidéo, il va falloir faire quelque chose ». Donc on voit déjà que les discours des institutions changent et sont un petit peu contradictoires. Moi, ce que j'ai pu observer pendant le confinement, c'est aussi une nouvelle appropriation de ce média. Parce que beaucoup de familles, finalement, se sont mises à jouer avec leurs enfants, à découvrir un peu plus ces médias-là. Donc, ça a beaucoup agacé certaines familles de voir leurs gamins scotchés à certains jeux vidéo, mais ça a permis aussi de questionner, de redécouvrir un petit peu ces enfants, de pouvoir pousser un peu le dialogue vis-à-vis de ce média, de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans la tête des enfants, pourquoi ils jouent, ce qu'ils y trouvent, et pouvoir aussi proposer d'autres types de contenus. Puisqu'une fois qu'on a vu ces enfants jouer pendant des heures au même jeu et qu'on en a marre qu'ils jouent au même jeu, il faut aussi être force de proposition pour proposer d'autres types de contenus. Si on n'est pas d'accord avec ce à quoi ils jouent, proposons autre chose. Donc, je trouve que ce qui va ressortir du confinement, ce n'est pas forcément une addiction de masse, parce que les personnes là, sont tellement contentes d'être déconfinées que finalement, les écrans vont assez vite les lâcher, au moins pour quelques temps, le temps de trouver d'autres repères. Donc, ça ne m'inquiète pas tant que ça. Par contre, ce que je vois, c'est une appropriation du numérique dans sa globalité, parce que ça nous a servi énormément pour le télétravail, le lien social, le lien avec l'actualité, le refuge aussi, parce qu'on a besoin de se faire du bien, de se divertir et de vivre autre chose. Et le jeu vidéo permet cette expérience de vivre autre chose, de s'immerger dans d'autres univers. Donc, ça a sauvé sûrement beaucoup de personnes d'un point de vue de la santé mentale et ça a permis aussi vraiment une meilleure appropriation de ces médias. Donc, je trouve que le discours autour du jeu vidéo et des écrans a quand même beaucoup changé de la part des médias durant ce confinement.
Je voudrais revenir sur un dernier point pour rebondir sur ce que disait Tom Terayam qu'on a entendu. C'est l'auteur de Next Level et qui parlait du comportement de ses propres enfants après une session de jeu où ils étaient tout énervés, tout excités. Qu'est-ce que vous répondez, vous, aux parents? Pour qui c'est un problème?
Alors, Un point qui est quand même important, c'est de noter que dans différentes études, qui ne prouvent pas, bien sûr, que les jeux violents rendent violents, les études montrent quand même relativement que la compétition à travers les jeux vidéo peut rendre agressif. Et donc ça, c'est un point qui est important parce que finalement, peu importe le type de jeu auquel vous jouez, il peut ne pas du tout être violent. Le fait de devoir battre l'autre ou de se battre soi-même à travers une intelligence artificielle ou de battre une équipe va faire que c'est un peu vivre ou mourir, c'est soi ou l'autre. Et du coup, ça engendre des mécaniques qui peuvent être agressives. Mais tout comme on peut le voir dans le sport, hein, quand on voit des matchs de foot ou même des tennismen qui vont casser leur raquette à la fin d'un match parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils ont mal joué, parce qu'ils sont pleins d'adrénaline, ça peut bien entendu créer des comportements qui vont être agressifs quelques temps. En général, c'est 15-20 minutes après la fin d'une session, que ce soit de jeu ou de sport, on a cette adrénaline qui a été sécrétée par notre cerveau et qui du coup doit se dissoudre. Donc ça prend un petit peu de temps de se dissoudre. On ne se rend pas compte en général de cette adrénaline-là quand on est dans le réel, entre guillemets, qu'on est en train de sauter avec ses copains parce qu'on a gagné un match ou qu'on est énervé en train de se soutenir mutuellement parce qu'on a perdu. Dans un jeu vidéo, quand on est tout seul face à son écran, effectivement, on peut voir certains comportements qui sont un petit peu agressifs pendant 15-20 minutes parce qu'on a mis beaucoup d'émotions, on avait beaucoup de tension cardiaque pendant le jeu, parce qu'on y prend du plaisir, parce qu'on met de l'investissement dedans. Bon, mais il ne faut pas forcément s'inquiéter sur ce qui va se passer dans 15-20 minutes après voilà une partie de jeu. Si par contre, le comportement il perdure dans le temps, vraiment sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, ça peut vouloir dire autre chose. Et ce n'est pas forcément le jeu qui va être en cause. L'enfant ou le jeune ou même le moins jeune peut avoir des difficultés à gérer son agressivité tout court, sa frustration. Et ce n'est pas lié au jeu, mais par contre, le jeu va refléter ce qu'on est. Donc, si on a des difficultés de phobie sociale, des difficultés, peu importe, on peut être dépressif, on peut être bipolaire, on peut être en schizophrénie latente qui n'est pas encore ni identifiée ni encore décompensée. Ça peut être tout un tas d'indicateurs aussi pour nous psychologues pour se rendre compte que là, il y a une fragilité. Mais c'est pas le jeu qui va aller créer cette fragilité. La fragilité, elle est là, elle est préexistante. Mais par contre, à travers l'écran, on va très vite se rendre compte, en fait, de certains mécanismes. Donc, du coup, pour certaines personnes, ce sera pas forcément toujours bon. Et c'est à chacun d'identifier après quelles vont être les limites et ce qu'on fait en termes de prévention aussi pour ces personnes qui pourraient, être un petit peu à la dérive par rapport à leur propre problématique.
Merci Vanessa Lalo, psychologue clinicienne, et merci aussi à Tom Terayam, auteur de Next Level, Polar nerveux et réflexion sur le monde du jeu vidéo. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez écouter la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'information en direct, rendez-vous sur leséchos.fr.